Vous avez entendu son nom au fil du feuilleton judiciaire qui la poursuit depuis 20 ans en Turquie, condamnée pour terrorisme, acquittée 4 fois, poursuivie de nouveau à chaque fois par l'État turc qui l'a érigée en femme à abattre. Pinar Selek, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aujourd'hui française, vous
Ouais.
vivez à Nice
Ouais.
et vous êtes toujours dans l'attente d'un dernier jugement de la Cour suprême turque vous concernant. Mais vous n'êtes pas uniquement la victime d'un acharnement judiciaire. Vous êtes une chercheuse, une écrivaine, une poétesse, une militante. Et vous racontez votre parcours et vos combats dans un livre d'entretien qui est récemment paru, L'Insolente, un livre de discussion avec Guillaume Gamblin, qui est le rédacteur en chef de la revue Silence, une revue d'écologie sociale et féministe. Et dans ce livre, vous écrivez la phrase suivante, que je vais vous lire, car j'aimerais vous faire réagir à cette phrase. Vous écrivez « Le contexte de la Turquie m'a montré les logiques communes, les liens idéologiques qui relient le militarisme et d'autres systèmes de domination. Je ne me soulève donc pas uniquement contre l'armée, mais contre tout le système qu'elle représente. » Les mécanismes de soumission, d'uniformisation, d'homogénéisation, de rhinocérisation, en citation bien sûr du rhinocéros de la pièce de Ionesco. Pouvez-vous nous expliquer ces liens que vous faites entre militarisation et soumission?
Quelquefois, on découvre les logiques de la société, de l'ordre social ou de l'ordre politique en lisant, avec les lectures. Et quelquefois, nos expériences peuvent nous montrer beaucoup de choses. Et moi, j'avais de la chance parce que j'étais dans une famille déjà contestataire. Donc, quand 1980, donc on va un peu en avant, j'avais 9 ans. Et c'était dans une contexte où, chez nous, dans la maison, il y avait beaucoup de résistance. Les militaires sont venus prendre mon père, donc 5 ans, on ne l'a pas vu. Et il y avait une résistance. Et j'ai vu, quand j'étais enfant, toutes les discussions qui sont faites à la maison et comment autour de moi, en dehors de cette maison, et tout le monde était en train de se soumettre ou se mettre dans l'ordre que les militaires ont demandé. C'était une expérience, à mon avis, très intéressante parce que comme si la société était dans le service militaire. Les militaires avaient pris le pouvoir et ce n'était pas sournois, c'était pas indirect, c'était très direct. Ils ont mis en place tous les mécanismes, les modes de fonctionnement qu'ils font déjà dans l'armée. Ils l'ont appliqué directement à la société. Et donc, ils ont mobilisé les institutions comme l'éducation, comme les médias, même les familles, l'économie. Donc, déjà, après les lectures, je vais comprendre, ou après les discussions, je vais comprendre que la Turquie, à partir du génocide, à partir du génocide des Arméniens,
Arménien.
à partir de la construction de l'État turc, était dans ce processus de militarisation et de nationalisation et de création d'une société fictive, mais avec les mécanismes très très violents. Mais ça, je vais apprendre après. Je vais historiser ce que je suis en train de vivre à cette époque après. Mais ce que j'ai vu quand j'étais enfant, comment mes amis, comment mes professeurs sont transformés, se sont mis en ordre. C'était par la peur, mais aussi toujours on écoutait les télévisions et il y avait une répétition, 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 répétition. Quand on répète beaucoup, beaucoup, ça devient normal. Et on commence à croire que les autres sont des ennemis. Mais moi, je savais que il y a un an, c'était pas comme ça. On ne parlait pas comme ça. Et j'ai vu cette transformation qui était très traumatisante pour moi. Et ma mère m'a dit, on va au théâtre. Donc, en même temps, on résistait, on faisait plein de choses, on avait beaucoup de difficultés dans la vie, mais il y avait toujours l'art dans notre vie, il y avait toujours des chansons, la musique. Donc, ça nous permettait de ne pas entrer dans cet ordre-là aussi. Donc, elle nous emmène avec ma sœur, plus petite que moi, on va au théâtre, au spectacle, Rhinocéros. Donc on voit, et moi je me souviens juste à la fin de ce spectacle, je me suis foncée, c'est juste l'expression,
ouais,
je me suis foncée.
Je me suis enfoncée
dans mon siège, ouais. Dans le fauteuil, ouais. Et j'étais devenue toute petite parce que vraiment c'était très très sombre,
ouais.
Désespérant, oui, c'était très désespérant. Et parce que tout le monde devient rhinocéros. Tu vois comment les gens deviennent rhinocéros autour de ce spectacle. À la fin, même quand Béranger, je me souviens le nom de héros, qui disait « Non, je vais rester humain », il criait, etc. Même ça, ça ne te donne pas beaucoup d'espoir. Et quand on est sorti, je me suis vraiment, j'ai donné une promesse à moi. Je ne veux pas devenir rhinocéros. Et après, quand vous allez à l'école, donc, à l'école, c'est écrit « Heureux à ceux qui disent « Je suis turc ». ». Et dans les professeurs, deviennent des caricatures de...
Nationalistes,
des caricatures du dictateur de l'époque. Donc, tu vois, la transformation de tout le monde, avant, ils parlaient d'autre chose. Même, parler d'Aragon était interdit. Parler de Nazım Hikmet, c'est un poète très connu, était interdit. Paul Éluard était interdit, vous pouvez imaginer. Donc, et je voyais comment les professeurs que j'aimais bien, etc., on acceptait ça. Et après, j'ai commencé à voir que c'est pas seulement à cause de la peur. La peur était importante. Mais quand on répète les choses et à haute voix, ça devient normal. Donc, j'ai eu de la chance, disons, de voir ce mécanisme militaire qui est appliqué à la société, mais avec une ouverture très très forte. Et cela a permis aussi la mobilisation de toutes les institutions et toutes les structures existantes déjà. Et ça te permet de voir comment le pouvoir politique s'appuie sur les pouvoirs sociaux, sur les institutions sociales qui existent déjà. Donc ça, c'était une expérience personnelle. Mais après, j'ai grandi dans une époque où le mouvement féministe était en train d'émerger.
En Turquie.
Ouais. Et,
à Istanbul.
À Istanbul.
Vous habitiez à Istanbul.
Oui, j'habitais à Istanbul, mais cette émergence n'était pas qu'à Istanbul. C'était dans les grandes villes, mais c'était pas qu'à Istanbul. Mais Istanbul, c'était au cœur de cette développement. Et le mouvement féministe s'est développé très tard en Turquie. Parce que c'était justement à cause de ça, la construction de l'État turc, après le génocide, après les massacres des Grecs, après les massacres de Kurdes, etc., ils ont décidé de mettre la femme, c'est pas les femmes, mais la femme dans la vitrine. Donc, ils ont donné beaucoup de droits, beaucoup d'illégalité, avortement dans les années 30.
Droit de vote.
Droit de vote, droit d'éligibilité 24. 30.
1924, oui. Le droit de vote des femmes en Turquie, si on compare à
oui,
la France. Oui,
oui, mais en même temps, beaucoup d'égalité. Ils voulaient vraiment que les femmes deviennent très visibles dans la vitrine de la Turquie. Donc, c'était une ouverture à l'Europe. Et donc... très vite, parce que la Turquie faisait partie du système économique capitaliste. Donc, et la France et les autres pays, ils ont oublié le génocide des Arméniens, ils ont oublié toutes les massacres qui s'est fait. Donc, ils ont continué le chemin avec la Turquie. Et dans cette période-là, dans les universités, par exemple, je parle des postes de profs ou des juges, la moitié étaient femmes. Peut-être pas moitié, mais 40% étaient femmes. Ouais. Donc, il n'y avait pas la question de droit ou de l'égalité. Il y avait une question de liberté. Mais juste dans cette période-là, qui est très importante, je veux parler de deux minutes de ça, il y avait un petit mouvement, un mouvement important à l'Empire ottoman des femmes pro-féministes. Je dis pro-féministe parce qu'elle ne se disait pas féministe, mais elle parlait de l'orgasme, elle parlait de l'autonomie des femmes, elle parlait plein de choses très radicales. Donc, mais il y avait des Grecs, des Arméniens, c'était mixte. Et quand elles ont eu le génocide, donc elles ont été déjà cassées, après le départ des Grecs, toutes les morts, etc. Donc, c'est resté un petit groupe de femmes féministes. Donc, elles vont à Ankara, quand il y a cette république-là, dans les années 23-24. Elles vont là-bas, elles disent que nous voulons créer une partie politique des femmes, pour ne pas laisser notre destin aux mains des hommes. Atatürk, il est très, très énervé, mais très, très énervé. Et il les chasse du pouvoir politique, du pouvoir social. Ils le chassent de tous les champs et elles finissent tous comme Camille Claudel dans les hôpitaux psychiatriques.
C'est comme une Camille Claudel,
oui.
Qui est cette sculptrice qui a un personnage très important pour vous, qui vous accompagne depuis
tout
votre
temps,
enfance.
Tout le temps,
vous en parlez beaucoup dans le livre.
Ouais. Et donc, cette histoire est très importante. Après, Atatürk, il prend des femmes, des filles adoptives. Une, elle les chasse de guerre. Une pilote de chasse, pardon, qui a bombardé les Kurdes. L'autre, il est professeur des universités qui a soutenu sa thèse, anthropologue qui dit, en Allemagne, qui disait que les Turcs viennent d'une race aryenne. Donc, vous voyez comment le fascisme se structure en mettant la femme dans les vitrines. Donc, et le mouvement féministe jusqu'aux années 80 n'a pas pu émerger parce que les générations de ma grand-mère ou des autres disaient que nous, on n'a pas besoin de féminisme parce qu'on est égal. Atatürk, c'est le plus grand féminisme. Atatürk, ça veut dire père des Turcs. Hein, donc, c'est très patriarcal. Et il ne faut pas que les femmes discutent entre elles. Il faut que vous servez à la cause nationale, et après vous pouvez profiter toutes les égalités, tout ça. Donc le mouvement féministe en émergeant a mis en question à la fois le militarisme, à la fois le nationalisme, à la fois tout l'ordre social et qui est articulé à l'ordre politique, et elles sont sorties avec un discours très 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 radical, donc contre la famille, contre le mariage, contre tout l'ordre social. Et c'était très important, ça. Et cette émergence, aussi, elles ont critiqué toutes les gauches révolutionnaires qui n'étaient pas très différentes du kémalisme en Turquie.
Ouais.
Donc, elles ont développé un discours anti-autoritaire. Et moi, j'ai grandi autour de ces discussions, etc. Donc,
dans cette
de
culture, dans cette culture
de la remise en cause de pas seulement des rapports de classe, pas seulement des rapports entre les groupes sociaux qui est très important, mais aussi tous les mécanismes et toutes les façons de faire. Et quand elles ont dit le privé et politique, ce n'était pas seulement ce que les femmes vivent dans la vie privée et politique, ça c'est juste et c'était assez une lutte assez importante de mettre en avant ça, mais aussi elle mettait en cause que tout le processus est politique, tout ce qu'on, notre façon d'organiser est politique, notre façon de faire des actions est politique. Donc moi j'ai grandi dedans. Et quand vous commencez à lier vos lectures avec toutes ces expériences-là, vous devenez anti-autoritaire, c'est obligé.
alors, c'est très intéressant. Merci de réussir ce condensé d'histoire turque, qui est une histoire qui est malheureusement peu connue, mal connue en France. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant dans le livre, c'est que vous expliquez très bien comment, contre cette uniformisation du monde, et donc comme vous venez de l'expliquer, qui passe par l'intériorisation dans sa propre intimité de cet ordre social répressif. Et donc, il faut lutter non seulement contre un ordre qui vous écrase, mais contre toutes les normes que chacun et chacune a intériorisées, en fait, dans sa subjectivité. Donc, c'est quelque chose c'est quelque chose de très puissant, en fait. Et on comprend bien le mécanisme d'oppression. Mais juste pour aller jusqu'au bout de ma question, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, à partir de cette analyse-là que vous faites, vous défendez contre cette uniformisation une approche qui relie féminisme, non-violence et écologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce que cet entremêlement de mouvements et d'idées, pour vous, est une forme d'antidote à cette intériorisation de l'ordre social ?
Ah, merci. Juste avant, je voulais dire une petite chose. Même si j'ai grandi dans ce questionnement, dans un milieu qui était un peu protégé du nationalisme, du militarisme quand même, mais j'ai compris que on s'intériorise même si on est dans l'opposition. Et mon livre qui est sorti aussi en France parce qu'ils sont arméniennes, c'est une histoire de déconstruction. Comment je me suis déconstruite? Parce que je disais que moi je suis dans un milieu de gauche, on parle du génocide, etc. Mais petit à petit, avec des rencontres, comment j'ai commencé à voir que j'appartenais à une identité dominante et quand même j'avais des images dans ma tête que l'État a réussi à m'imposer.
Oui.
Et c'était très difficile de me transformer. Donc je parle de cette expérience de me déconstruire. Et je crois que en Turquie, nous avions une chance. Maintenant, en France aussi, avec les Gilets jaunes, plusieurs mouvements, je vois cette convergence. Mais en France, en Turquie, comme il y a une répression permanente, donc vous êtes tout le temps dans une quasi-prison, disons, et les mouvements sociaux sont obligés de converger. Donc, ouais. Il y a toujours une convergence. Et quand il y a une convergence permanente, je ne parle pas de 2 ans, 3 ans ou 4 réunions du collectif, mais je parle de lutter, apprendre et lutter ensemble en permanence. Ça fait beaucoup d'effets. Ça fait un effet, d'abord, il y a des voyages des idées, voyages des expériences, etc. Et c'est créer des conflits internes dans les groupes, parce que les femmes dans le mouvement kurde mobilisent, les Arméniens dans le mouvement LGBT mobilisent, les Kurdes dans le mouvement kurde disent que non, ici c'est très turc, etc. Donc, il y a des conflits internes, il y a des organisations qui se transforment, il y a des organisations qui ne se transforment pas et qui restent là, mais comme une pancréas qui ne...
Mise de côté.
Voilà. Comme une pancréas qui ne... Non, pas pancréas, pardon, qui est comme...
L'appendicite.
L'appendicite, oui. Donc, pancréas, il est important, pardon.
Pancréas, par contre, il est important.
J'ai compris, ouais. Et ça, c'est pas très important, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, dans cet espace-là, on commence à... La troisième chose qui est importante dans ce processus, et tu commences à se transformer. Donc, tu commences à découvrir tes côtés dominants et tu commences à comprendre que il y a une pieuvre, les systèmes de domination s'organisent comme une pieuvre. Donc une tentacule te prend, mais tu fais partie d'une autre tentacule qui prend l'autre. Donc on n'est pas des objets, on est des sujets. Et on participe à ce système de domination.
Systémique. Quand on c'est parle très de systémique. Domination systémique, quand on parle de...
On fait partie.
Machisme systémique, quand on parle de racisme systémique, en fait, vous expliquez très bien, c'est de ça dont on parle. C'est qu'en fait, on peut être soi-même l'agent d'une domination sans même en être nécessairement conscient.
C'est
on
ça.
On se tient tous, on s'écrase les uns
c'est
les
ça.
Autres.
C'est ça, c'est ça. Donc, c'est à travers les institutions, les structures, la culture, etc. Donc, et surtout la culture de soumission. Donc, et pas seulement la culture de soumission, mais aussi l'intérêt que vous avez. Vous avez des petits intérêts. Donc, vous dites que, donc, pour les petits intérêts, je le fais. Donc, il y a la culture de soumission, mais aussi il y a des petits intérêts. Ça vaut le coup que je le fasse aussi. Donc, vous entrez dans ce schéma. Vous êtes content de vos privilèges, etc.
Et après, comment on se défait de ça?
Alors, dans cette convergence, ce qui s'est intéressant, moi, ce que j'ai vécu en tant que personne, c'est les rencontres qui m'ont transformée. Les rencontres, l'écoute. Et quand j'ai commencé à voir que si je me transforme, c'est la société qui transforme aussi. Donc, on change les choses, mais on se transforme aussi en même temps. Parce que c'est nous qui créons ce système. Donc, en Turquie, j'ai vécu cette expérience et je continue à vivre en France. Et en plus, je pense que si vous voulez changer l'ordre social et politique, une perspective de liberté ne suffit pas. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la vie est très complexe. La complexité des choses, la complexité du système politique. Et donc, si vous commencez à voir que le féminisme est très important pour comprendre les liens invisibles entre les différentes sphères de la société, mais ça ne suffit pas parce qu'il faut aussi comprendre la culture de domination qui est créée, qui est institutionnalisée à partir de nos liens avec des autres êtres. Comment les chiens sont devenus nos amis, mais qui ont des êtres qui qu'on tient avec les laisses.
Asservis.
Ouais. Et comment on a colonisé tous les espaces en dehors de nous. Si on commence pas à comprendre comment nos liens avec les animaux légitiment la colonisation, et comment notre relation avec la nature, qui ne veut rien dire toute seule, mais notre définition de la nature légitime toutes les rapports de domination qui existent même contre les femmes, contre les noirs, etc., etc. Donc, quand vous ne voyez pas ça, une seule perspective de liberté ne suffit pas. On a besoin d'un regard assez riche, assez complexe et qui lie les différents rapports de domination. C'est pour cela que je fais beaucoup de conférences, surtout en Italie, parce qu'en Italie, il y a des conditions assez difficiles maintenant, mais il y a
avec
des luttes
l'extrême droite qui est
avec
au
l'extrême
pouvoir.
droite. Et je vois partout, mais partout, des affiches, une femme qui allaite, une jeune femme, et qui dit, mais c'est comme l'époque de 45, qui dit, la télé a besoin des fils, pas de mariage homosexuel, pas d'immigrés. Mais partout, vous voyez ça.
Natalisme, une politique nataliste,
Ah,
nationaliste.
et donc, je fais des conférences sans féminisme, pas de lutte efficace contre le fascisme, mais il y a du monde partout, toujours, toujours. C'est ces conférences itinérantes que je fais tout le temps. Et je le compte que sans les fascistes ont très bien compris que le privé est politique, que la sexualité est politique, mais le féminisme ne suffit pas pour changer les choses. Le féminisme est très important, mais pas seulement avec le féminisme que vous pouvez changer les choses. Donc, on a besoin de plusieurs ressources. On a besoin de la poésie, on a besoin des idées des situationnistes, on a besoin de l'écologie sociale, on a besoin de beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas réduire la complexité de notion de la liberté seulement à une lutte sociale. C'est pour cela les convergences sont importantes. Et aussi même si on n'a pas le temps, on ne peut pas faire tout dans la vie, mais au moins laisser les portes ouvertes et essayer de se questionner toujours. Et une dernière chose, c'est que j'ai compris quand j'étais petite, donc à travers cette expérience-là, il faut mettre en question ce qui nous paraît plus normal. Parce que la domination s'organise dans les liens qui nous paraissent très, très normal. Et donc, ça devient une hégémonie à travers la normalité des choses, avec les habitudes, etc. Donc, j'ai appris grâce à ça, grâce à cette contrainte entre le milieu où je suis et la télévision, ou je ne sais pas, il faut toujours mettre en question les choses qui nous paraissent normales.
Qu'est-ce que vous avez vu ou quel mouvement est-ce que vous avez rencontré en France qui vous semble aller dans cette direction-là, dans cette voie-là d'entremêlement, de lutte contre les dominations patriarcales, capitalistes, conservatrices, productivistes? Qu'est-ce qui vous semble ressembler à ça?
J'ai accepté l'écriture de ce livre parce que cette proposition est venue du journal Silence. Et Silence, c'est un journal, c'est un mouvement, c'est une histoire, à mon avis, qui est très importante pour les mouvements sociaux en France. Et parce que depuis des années 80, ils ont réussi à créer un réseau, mais comme des fourmis, petit à petit, petit à petit, et sans être productiviste, mais sans lâcher 2 minutes, comme je dis, comme des fourmis. En même temps, ils ont contesté à tous les projets inutiles imposés, toutes les dominations, etc. Mais en même temps, ils ont soutenu et toutes les formes d'alternatives qu'on essaie de créer dans ce monde. Donc, il a créé son réseau et que je rencontre partout en France, très, très impressionnant. C'était au début de mon arrivée en France, quand j'ai rencontré Silence et j'étais en train de chercher. Donc, au début, d'abord, j'ai oublié de dire, mais avant Silence, c'est des féministes en France, même
Qui
si...
vous ont soutenu, qui vous ont accueilli, qui vous ont défendu.
Oui, il y avait une solidarité énorme. Avant que j'étais venue en France, quand j'ai quitté la Turquie, j'étais en Allemagne au début, et mes amis féministes en Turquie, ils ont fait l'appel, ne laissez pas Pınar seule, mais ne laissez pas là sans lutte. Elle a besoin de lutter, donc elle a besoin de arroser la liberté. Donc, mes premières, comment on dit, camarades, c'était des féministes, mais c'est pas parce qu'elles m'ont aidée, ça c'est la solidarité, c'est la base des choses, mais aussi on a partagé, elles étaient mes guides, mes guides à la vie qui continue aussi, mais aussi il y a des divergences. Mais deuxième, c'est Silence. Donc je mettrai Silence après le mouvement féministe, mais dans Silence, je vois quelque chose de très important, que J'avais déjà, quand j'étais en Turquie, et je partageais avec mes amis en Turquie, la relation de pouvoir lier la domination masculine et la domination de l'être humain sur les autres êtres. Et de réfléchir.
Espèces.
Oui, et donc ils disent non-violente, moi je dis plutôt anti-violente ou anti-militariste, mais c'est un peu la même chose. Mais et, donc cette mise en question de la violence, cette mise en question de la structuration de la violence dans la société, ça me convient beaucoup. Quand je suis en silence, et je fais partie du silence d'une façon ou d'une autre, et je me sens chez moi. Et j'ai accepté ce livre parce que j'ai dit que je veux bien voir comment ils lisent cette histoire. Et ça va commencer un dialogue qui va s'élargir aussi.
Une des luttes que la revue Silence et le mouvement autour de Silence, comme vous dites, donc qui à l'origine vient de la décroissance, mais donc il y a toute cette pluralité là que vous avez décrite, une des luttes dans lesquelles le mouvement Silence est impliqué, c'est la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes,
oui.
Donc qui a été abandonné. Aujourd'hui, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes se recrée, se réinvente dans ce nouveau contexte. Vous vous êtes rendu sur la ZAD, c'est une lutte dans laquelle vous êtes impliqué. Est-ce que vous y retrouvez justement dans cette ZAD ce que vous décriviez précédemment, de cet effort de lutter contre différents systèmes de pouvoir?
Oui, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne veux pas beaucoup parler, mais vraiment c'est la lutte qu'on est en train de faire sur le ZAD, c'est une de mes luttes principales qui me donne beaucoup d'espoir. Parce que maintenant, la lutte s'est élargie, on ne lutte pas contre l'aéroport seulement, on lutte contre un système capitaliste et productiviste. Donc, ils ont vraiment transformé la culture d'agriculture en le liant aussi avec la culture en général. Ce qui m'impressionne beaucoup, ce qui se passe là-bas, de création d'un autre mode de vie et de lutte. Moi, je crois beaucoup à la poésie.
Ouais.
Et je crois beaucoup, il faut jamais, parce que la vie est très courte, si on lutte pour la beauté et pour les choses magiques, il faut jamais perdre la magie. Sinon, on va pas gagner. Sinon, on va créer un système socialiste à la Union soviétique, etc. Et ça m'intéresse pas du tout. Donc, pour vraiment rester toujours un peu anarchiste, un peu féministe, pas un peu, beaucoup anarchiste, beaucoup féministe, beaucoup écologiste, il faut toujours, on a besoin de la poésie. Et la poésie, je le trouve beaucoup à la ZAD. Et c'était étonnant.
Les paysages, c'est quoi? C'est la forêt?
Non, c'est la lutte, c'est la forme de lutte.
La forme de lutte.
C'est la forme de lutte est très, très poétique. Pas par exemple, c'est juste un petit exemple, mais tous leurs débats qu'ils font là-bas, et il y a toujours la poésie, il y a toujours des rituels, ils organisent des différents rituels, ils inventent des rituels, donc ça c'est génial. Donc je suis allée, disons, 3 mois avant, et il y avait un bâtiment qui était démolie par les forces de l'ordre, par les gendarmes. Et 3 mois après, je suis allée, ils l'ont fait.
Il était reconstruit.
Mais reconstruit, de façon, il y avait des sculptures partout, mais c'était des couleurs intéressantes. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, mais ils peuvent le détruire aussi. Pourquoi vous avez fait tant d'efforts pour faire ça? Et parce que c'est comme faire des châteaux sur le sable. Mais ils m'ont dit, mais nous, on lutte pour la beauté. Même si on veut lutter deux jours, ça va rester, mais on veut vivre dans la poésie. Donc, j'ai trouvé mes alliés en France. J'ai trouvé mes camarades en France. Donc, je me sens maintenant vraiment à l'aise parce que j'ai trouvé mes repères de plus en plus. Donc, je veux ajouter, même si on n'a pas le temps, Longomaï, c'est une longue histoire.
Oui, alors Longomaï, expliquez. Donc, c'est un lieu, c'est une forme de communauté, de commune. Qui existe depuis plus de 40 ans maintenant, créé au sud de la France, près de Fort Calquier, et qui a essaimé dans différents pays européens.
Oui, donc c'est vous pouvez trouver beaucoup, on peut trouver plein de choses sur Internet, mais surtout c'est une recherche d'une jeunesse, d'une génération, comment on peut vivre autrement et comment on peut continuer à se mobiliser. Sans se radicaliser contre les, parce que il y a des Allemands, il y a des Suisses, il y a des Autrichiens et des Français.
C'est très international.
Donc, très international. Donc, c'est après 68 quand les États deviennent de plus en plus répressifs. Et cette jeunesse, ces groupes se retrouvent et disent que comment on va continuer, où on va se radicaliser? ou on va continuer à créer une autre chose, une autre mode de vie. Donc, ils ont passé de plusieurs étapes. Comme je vous ai parlé de la Turquie, ouais. Au début, c'était plus hiérarchique peut-être. Mais maintenant, comme ils mettent toujours en question et ils se transforment tout le temps, et maintenant, les idées féministes, les idées libertaires, écologistes sociales sont devenues de plus en plus importantes. Et c'est une organisation très dynamique et qui a la recherche tout le temps. Donc, qui se transforme. Et donc, là où, en tant que projet de vie, là où je me sens plus à l'aise, c'est Longomai. Et Longomai, ça veut dire que ça dure longue.
Ouais. Et ça dure longtemps.
Ça dure longtemps, oui, ça dure longtemps. Et je crois que maintenant, même si je ne vis pas toujours là-bas, je me sens, je fais partie de ce projet de création d'un autre mode de vie et s'autonomiser parce que il faut s'autonomiser. Il faut créer des espaces où on n'a pas besoin d'aller à grands supermarchés et d'acheter des, parce que au moment donné, on devient très très dépendante à ce système. Et quand j'ai pensé à mon enfance qui était très militarisée, maintenant, dans le monde entier, on voit une autre forme. Néo-militarisation, néolibéralisme, néoconservatisme, néofascisme et néo-militarisation qui se passe pas directement de l'État, mais qui se passe à travers les grands, la marchandisation de la société qui a pris les mêmes logiques de l'armée et qui vous condamne
centralisé.
Et tu ne sais pas, moi je voyage tout le temps, quelquefois tu ne sais pas dans quel pays je suis, dans quelle ville je suis, et tu es dépendante ou même tu es dépendante d'une carte bancaire, tu es dépendante au téléphone, tout devient tu es contrôlée vraiment très très centralisé, le contrôle est très centralisé. Donc dans cet espace là ceux qui cherchent créer des espaces autonomes et de continuer à faire la poésie, la création sans être dans la moule, et ça me paraît passionnant. Et au début, je ne voyais pas beaucoup quand j'étais venue en France 2012, donc je parlais toujours de la Turquie, nanana. Et maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, je suis très très émue de toutes les rencontres que je fais dans ce pays. Voilà.
Ben écoutez, merci beaucoup Pinar Selek de cette traversée que vous nous proposez dans ce livre et dont on a entendu quelques extraits par cet entretien. On vous suit, on va continuer à vous suivre. Vous avez un livre qui paraissait bientôt en Italie.
Oui,
sera bientôt traduit en français.
Oui, ça va sortir en France aussi. La traduction en français, c'est mon roman, c'est mon deuxième roman qui va sortir bientôt.
Bon, et ben écoutez, on continue à vous suivre. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur Mediapart.